Alors la majorité des PLU s'accordent sur une terminologie commune. Comme pour les édifices inscrits ou classés au titre des monuments historiques, les documents de PLU distinguent deux grandes catégories. D'une part, les éléments individualisés ou isolés, d'autre part, les ensembles dits homogènes. Une deuxième distinction est opérée quasi systématiquement selon que le patrimoine est bâti ou naturel. Depuis 1993, la disposition de protection va viser tout élément de paysage. Par cette expression, il faut entendre tout élément naturel, comme par exemple un arbre isolé, une mare, ou un ensemble d'éléments naturels, comme un alignement d'arbres, une haie, une trame végétale, un chemin, une zone boisée. Le vocabulaire des PLU est susceptible d'infinies variations pour caractériser le patrimoine. Les éléments bâtis à préserver. Cela s'explique par le fait que les dispositions juridiques laissent aux autorités locales toute latitude pour désigner les éléments patrimoniaux qu'ils souhaitent préserver. Concernant les éléments isolés bâtis, il peut s'agir de tout type d'architecture qui vont des édifices monumentaux, bâtis militaires, religieux, aux bâtiments les plus modestes. On distingue à ce stade le patrimoine remarquable du patrimoine commun, ce qui différencie une église d'un habitat vernaculaire. Les types d'usage font également l'objet d'une identification particulière. Des catégories se dessinent selon la destination du bâti. On trouve en grande quantité les immeubles de logement qui se partagent entre des immeubles collectifs, les habitats individuels comme par exemple les villas, les chalets, les fermes. Et puis, sont souvent désignés à part les architectures dont la fonction est publique, écoles, mairies, salles de concert, ou bien alors les bâtiments industriels qui font l'objet d'une attention parce qu'ils signent l'identité des villes. Plus rares, les architectures commerciales peuvent aussi faire l'objet d'un signalement. Alors plus classiquement, les typologies vont se construire aussi selon les valeurs historiques qui peuvent être classées soit par période, Moyen-Âge, Renaissance, 18e, 20e, la belle 20e avec justement des découpages propres à chaque histoire des villes, soit par styles architecturaux plus universaux, le roman, le gothique, le baroque, le rococo, l'haussmannien, l'art nouveau, le colonial, les cités-jardins, le Bauhaus, l'art déco, le futurisme, le brutalisme. Autant de styles déjà reconnus par les historiens de l'architecture. Donc à ce titre, le PLU a le mérite d'élargir le panel et de pointer des styles d'architecture souvent sous-représentés dans les classements monuments historiques relevant de l'État. Le découpage par période historique n'est donc absolument pas homogène d'un PLU à l'autre, cette hétérogénéité pouvant être un casse-tête sans nom lorsqu'il s'agit de passer au PLUI. Alors parmi les éléments isolés, on trouve ce que certaines communes appellent le petit patrimoine local, que sont par exemple les oratoires, des croix, des bassins, des fontaines, des clôtures ou encore des petits édifices à usage collectif comme des chapelles, des fours à pain ou des moulins, des fontaines, des lavoirs, qui sont situés au sein de l'espace commun des villages. Alors bien que désormais peu nombreux, ces éléments rappellent le mode de vie passé. Ils témoignent à la fois des habitants, relèvent les usages agro-pastoraux d'alors et les pratiques communautaires, ou les coutumes anciennes. Leurs empreintes dans le territoire ont contribué à façonner le paysage culturel. Peuvent aussi être identifiées certaines parties d'un ou de plusieurs bâtiments, comme des façades, des éléments de bonne nature, des murets, des clôtures, terrasses, statues anciennes, cheminées, ou des espaces publics ou des vestiges archéologiques. Ce type de classement se rapproche de la typologie des ensembles homogènes qui peuvent concerner des ensembles naturels, bâtis ou mixtes, délimités par un périmètre dont la taille va varier, comme le suggère l'emploi de notions aussi souples que celles de site ou secteur ou de quartier. Par exemple, des prairies, des berges, de zones humides, mais aussi à un ou plusieurs éléments de bâtiment, ainsi qu'à des zones urbaines plus ou moins vastes. Concernant la variation de vocabulaire, le patrimoine paysager, il n'est pas rare que certains PLU allent plus loin, soucieux de la préservation d'entités paysagères qui peuvent être distinguées au regard des éléments du relief, de l'hydrologie, de l'occupation du sol, ces catégories localisées entrent d'évidence dans les projets de développement des communes. Pour conclure, disons que L'objectif des typologies du PLU est de mieux connaître la diversité du patrimoine territorial rapporté sur les plans de servitude et contraintes architecturales annexées au PLU et de montrer par là même l'identité, voire même l'originalité des biens de la commune dans le souci de sa préservation ou de sa mise en valeur.